Madame Boudlamo, merci de votre accueil et de vous rendre en retard. Vous avez signalé des chiffres un peu cataclysmiques concernant le choc de l'économie numérique ou digitale. Je crois qu'ils sont sous-estimés. Il y a une étude de Roland Berger auquel vous avez fait référence. J'y ai participé puisque j'ai été associé dans ce cabinet. En fait, on a pris des hypothèses extrêmement optimistes. Et finalement, ce sont des millions de jobs qui vont disparaître. Vous avez aussi fait référence au fait qu'il y avait une série télé que vous aimez bien. Mais pour comprendre le monde qui est en train d'arriver, il suffit de lire Jules Verne, son dernier ouvrage qui s'appelle Paris au XXe siècle, dans lequel tout est expliqué. Donc, finalement, les sciences exactes prennent le pas sur les sciences humaines. Et ça devient une société complètement désincarnée, complètement déshumanisée. Et c'est sans doute la société dans laquelle on va bientôt rentrer. Alors je crois qu'on est devant un choc titanesque. En termes économiques, parce que nous passons d'une économie de stock à une économie de flux. C'est ça en fait la digitalisation. C'est en fait passer d'une économie industrielle, manufacturière, à une économie de services qui est automatisée. Et donc, contrairement à des stocks qui sont physiquement localisables, les flux se déplacent latéralement dans toutes les circonvolutions du monde sans pouvoir être capturés de manière tangible. Ce sont des flux intangibles. Et d'aucuns, d'ailleurs, estiment que nous allons rentrer, à cause de ce phénomène, dans une période de croissance basse. Vous avez fait référence tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on regarde les perspectives de croissance, elles ne sont pas bonnes. On va sans doute avoir une croissance non inflatée de l'ordre de 1 à 1,5% pendant 5 à 10 ans, si tant est qu'on puisse faire des prévisions. Il y a deux phénomènes qui sont partiellement explicatifs de manière dominante pour cette évolution de faible croissance. C'est d'une part le vieillissement de la population qui fait que les gens qui sont plus âgés consomment et investissent mieux, ce qui est assez intuitif, mais aussi cette fameuse révolution digitale ou numérique qui est sournoise, qui est perverse, qui en fait, sans être un choc massif, égrène progressivement nos économies et enlève les gains de productivité qui auparavant étaient mis en œuvre par les humains, mais qui maintenant sont partagés entre des humains et des robots. Et ça, c'est sans doute un phénomène tout à fait majeur. Alors, vous avez fait référence aussi au fait que de la disruption. En fait, il y a un économiste qui avait parfaitement théorisé cette évolution, c'est Schumpeter, qui avait parlé de destruction créative, partant du fait, dans le siège finalement de Kondratiev, que l'économie avançait par vagues et par points de discontinuité, que l'innovation technologique à un moment s'imposait, se banalisait, et donc que l'économie avançait par à-coups. Mais quand on lit Schumpeter dans un texte, on voit qu'il est écrit que d'abord on innove et puis on détruit. Ce qui est assez intuitif aussi. On développe quelque chose, on s'adapte à cette nouvelle invention, on disqualifie toute une série de métiers qui auparavant étaient productifs. Et donc voilà ce qui est en train de se passer. On est maintenant au début de la phase de la destruction. N'est pas encore au terme de la phase d'innovation. Le monde est en train de changer. C'est la digitalisation, je le disais, c'est l'Internet des choses, ce qu'on appelle les objets interconnectés. Donc ce monde va en fait complètement délocaliser l'humain dans le rôle central qu'il avait dans les gains de productivité. Alors ce qui est finalement très inquiétant dans cette économie, c'est que d'abord, elle va complètement changer la morphologie sociopolitique, je crois. Elle va changer la morphologie sociopolitique et d'abord sociaux, parce qu'elle va d'abord toucher la classe moyenne et le secteur tertiaire. Parce que ce qui s'est passé dans une économie, c'est que le secteur industriel a été en partie délocalisé, dans les pays asiatiques ou autres, a été robotisé. Il n'intervient d'ailleurs plus en Belgique que pour un peu moins de 20% du PIB. Et le secteur industriel a été remplacé par le secteur tertiaire, qui lui maintenant va être impacté par la même phase d'automatisation. Et ça va toucher tout, les banques, les compagnies d'assurance, toutes les sociétés de services. Et donc ça veut dire qu'il y a une juxtaposition entre la classe moyenne, qui est celle qui travaille de manière majoritaire dans le secteur qui intervient pour 70% du PIB. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un choc d'emploi qui soit massif et qui conduise à tout ce qui est travail de faible valeur ajoutée soit remplacé. Parce que si l'économie industrielle conduisait à des tâches répétitives, c'est Charlie Chaplin avec le travail à la chaîne, le temps moderne, et bien dans l'économie numérique, tout ce qui est répétitif est automatisé, et tout ce qui est automatisable sera automatisé. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir une économie de processus, de flux, qui va toucher cette classe moyenne. Et j'avais été extrêmement frappé. D'ailleurs, je vais faire ce voyage moi-même au début juin, que l'ami Guerrois, la fidélie Proximus, a fait il y a environ 2 ans, le même trajet aux États-Unis. Il avait été voir toute une série d'entreprises à la Silicon Valley, où en fait des jeunes gars de 22-23 ans prennent un segment, une partie d'un métier, le diagnostic d'une prise de sang, le processus de numérologie d'un astrologue ou n'importe quoi, et tente de l'automatiser au maximum pour qu'il n'y ait plus d'intervention. Donc ça se fait petit bout par petit bout, et c'est pour ça que c'est sur loi, évidemment, c'est pas un grand processus qu'on remplace en une fois. C'est comme les banques maintenant, on peut consulter son compte bancaire sur son smartphone, mais on peut encore aller dans une agence. Donc à un moment, on peut aller dans l'agence parce qu'on n'a plus. Donc ça c'est le choc, on va dire, social, qui sera à mon avis massif et qu'on sous-estime complètement. Et puis il y a le choc politique, c'est qu'en fait la morphologie du monde change. À savoir que les entreprises, certaines entreprises, commencent à diriger le monde maintenant. Et ces entreprises, évidemment, nous échappent, parce qu'elles sont en grande partie étrangères. Ce sont des entreprises qui sont, pour la plupart, en quasi-monopole. Et d'ailleurs, comme elles sont américaines, on voit que le modèle américain a changé, parce que le modèle américain avait, à la fin du 19e, combattu les monopoles, ce n'est plus le cas maintenant. Et ce sont des entreprises aussi qui, en absorbant chacun de leurs menaces ou concurrents, augmentent les barrières à l'entrée, c'est-à-dire se rendent de plus en plus invulnérables en termes d'économie de marché. Donc on n'est plus tout à fait en économie de marché, on est dans une économie où de grandes entreprises, un peu comme une exosphère qui bougerait autour de la planète, peuvent créer ou détruire des classes moyennes ou des gisements de croissance en décidant de développer telle ou telle partie du monde. Donc ça, ça veut dire que nos vieilles économies, elles sont vieilles parce que je le disais, elles sont vieillissantes, mais aussi parce qu'elles sont essentiellement fondées sur le secteur tertiaire, vont souffrir de cette évolution. Et le problème, c'est que, alors, je n'ai pas encore parlé de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est évidemment, ça paraît être de la science-fiction, mais plus du tout. Il y a énormément maintenant de domaines dans lesquels l'aide intellectuelle fournie par la machine dépasse les compétences de l'humain. Et d'ailleurs, moi, je suis persuadé que mon professeur d'université, dans 5 à 10 ans, je vais être remplacé par des systèmes qui vont faire les liens de manière plus riche que je puisse le faire, qui ne vont pas confiner mon enseignement à simplement ma propre expérience ou mes lectures, et vont donc augmenter la connaissance des raisonnements. Ça va toucher tous les modèles. On pourra, je crois, presque modéliser le business case d'une entreprise avec un paramétrage qui peut être très très éloigné des réflexes et des biais cognitifs qu'on met en œuvre. Donc ça va vraiment beaucoup changer. Et ça m'en est venu avant de parler à la parole à Paul. En fait, finalement, quand on s'intéresse aux réponses, parce que c'est bien de faire un constat, mais bon, c'est pas très. C'est pas opératoire. Hein. Il y en a beaucoup, ou pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a. On peut très bien rentrer dans une société qui devient résignée, où la quantité de travail diminue, et qu'on arrive alors à une sorte de statu quo, avec une classe moyenne qui est pulvérisée, une société qui est binarisée entre ceux qui possèdent, ou qui sont les actionnaires des sociétés, qui mettent en œuvre les processus et les robots et les autres qui ont rien du tout, eh bien alors on agit de manière un peu plus volontaire. Et là, il y a évidemment une multiplicité de solutions, parce qu'on peut avoir des réponses qui soient, de type régalien ou autoritaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'autorité de partager la quantité de travail, vous avez fait référence. Mais partager le travail collectif, c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas imposer un partage collectif du travail, sachant que les métiers sont... demande plus d'application que d'autres. Ce sera donc une autre voie qu'on va devoir choisir. Ce sera peut-être une répartition, non pas du travail, mais des revenus du travail, et ou des revenus du capital, et ou des revenus de la consommation. Et peut-être, j'imagine d'ailleurs, qu'on va évoluer dans un système qui va faire déplacer la charge fiscale du revenu du travail vers, par exemple, la consommation ou le revenu du capital. Pourquoi ? Parce que s'il y a moins de travail, bah, naturellement, les revenus du travail seront moins. Et puis après, l'autre chose, mais là, qui est plus... L'autre piste qui est plus ambitieuse, c'est la formation et l'éducation. Enfin, c'est pas avec Hugo que je vais donner l'action de mise à l'emploi, mais manifestement, il y a un problème de formation et d'éducation dans nos économies. Il y a énormément de personnes qui, pour des raisons de qualité, de quantité ou d'attraction culturelle, n'ont pas une réaction de travail qui est facile, qui s'exclue. Et donc, il va falloir redonner l'envie de la formation aux plus jeunes. Et ça, c'est un travail qui est gigantesque. Ça veut dire que l'État, en tant que on va dire vecteur de valeur morale, va devoir jouer un rôle plus enthousiasmant, audacieux que tout fait maintenant. Voilà.